La plus grande stèle funéraire antique du musée Dee, donc la plus coûteuse, appartient à un esclave, un certain Sylvanus. Surprenant, n'est-ce pas? Ou peut-être pas tant que ça, car Sylvanus, nous apprend l'inscription latine, était un gladiateur. Dans l'Empire romain, les gladiateurs sont de véritables stars, peu ou prou l'équivalent de nos joueurs de football. Adulés par les foules, ils sont considérés comme des héros populaires, se font courtiser par les puissants et les puissantes, et peuvent ainsi être immensément riches, célèbres et admirés, et pourtant, rester tout en bas de l'échelle sociale. Car peu importe sa fortune ou sa gloire, un gladiateur est un esclave. Il n'est pas considéré comme une personne, mais comme un bien. Il n'a aucun droit et appartient à un propriétaire. Cela nous semble lunaire aujourd'hui, mais ce pouvait être une situation choisie. Si au début de l'Empire romain, des criminels et des prisonniers de guerre endossaient souvent le rôle de gladiateur pour échapper à une exécution certaine, les choses évoluent autour du 1er siècle après Jésus-Christ. Les jeux d'arène connaissent une telle popularité que devenir gladiateur apparaît comme un véritable choix de carrière. Un choix risqué, mais lucratif. Attiré par les gains et la renommée, un homme libre peut décider de se vendre pour tenter sa chance dans l'arène. Devenu esclave, il rejoint un Ludus Gladiatorius, une école de gladiateurs dirigée par un laniste. Si seules trois de ces écoles ont été mises au jour et étudiées aujourd'hui, à Rome, à Pompéi et à Carnatum en Autriche, leurs vestiges montrent suffisamment de similarités pour nous donner une idée de leur fonctionnement. Imaginez un complexe fermé, ne possédant qu'un seul accès vers l'extérieur. Une partie est réservée aux cellules, où dorment les gladiateurs, et le reste est entièrement dédié à leur santé et à leur formation. Des cuisines, des bains, des infirmeries, une armurerie, et bien sûr, un ou plusieurs terrains d'entraînement au centre du bâtiment ou à proximité. En véritables athlètes, les gladiateurs s'exercent longtemps et durement pour offrir aux spectateurs les combats les plus impressionnants possibles, chorégraphiés au millimètre près. Supervisés par des magistri, des entraîneurs professionnels, les gladiateurs se spécialisent dans un style de combat défini. Et ça, c'est un détail important, parce que le style de combat va définir l'équipement et le type de personnage qu'incarne un gladiateur dans le grand théâtre qu'est une arène. Les Romains distinguent les gladiateurs selon leur armatura, leur panoplie d'armes et d'armures. Autant vous le dire tout de suite, il en existait un paquet. Un grand trait commun se retrouve néanmoins dans tous les équipements. Ils sont faits pour protéger au mieux le combattant, même des blessures légères. Autour du 1er siècle, il existe environ 6 grands types de gladiateurs. Le provocateur est plus ou moins le niveau débutant. Tout aspirant gladiateur commence par maîtriser cette armatura. Armé d'un glaive et d'un grand bouclier rectangulaire, le provocateur est celui qui démarre en général les premiers combats d'arène. L'oplomaque s'affuble d'une lance et d'un petit bouclier rond, le thrace est muni d'une dague courbe à double tranchant, de larges jambières et un casque à rebord. Le myrmillon, quant à lui, porte 20 kg d'armure, un grand bouclier, une dague et surtout un lourd casque qu'il utilise comme une arme. Ce type faisait littéralement du rentre-dedans à ses adversaires. Vient alors le rétiaire. Son armatura est à la fois la plus légère et la plus offensive. Il est taillé pour le combat à distance. Avec son trident et son filet, il attaque de loin et piège ses adversaires. Son style de combat est si particulier qu'il en est devenu le grand méchant de l'arène. Le public juge le personnage du rétiaire sournois, sans honneur, et c'est sans doute le seul type de gladiateur à ne jamais être perçu comme un héros, mais systématiquement comme un vilain. L'ennemi juré du rétiaire est le sécutor. Sa panoplie minimaliste est reconnaissable à son casque arrondi, son bouclier long et sa dague. Il favorise la vitesse pour éviter le filet du rétiaire et réduire la distance. Sylvanus, le gladiateur décédé à Dee, était un sécutor, un pourfendeur de rétiaire. Vu la taille de sa stèle funéraire, il était sans doute très apprécié. D'ailleurs, Sylvanus est-il tombé au combat? L'hypothèse est possible, mais peu probable. Les gladiateurs ne s'affrontent généralement pas à mort. Leur but est d'offrir un spectacle ébouriffant au public, pas de se tuer. Au-delà de ça, une raison très pragmatique empêche leurs propriétaires de les laisser s'étriper les uns les autres. Ils coûtent sacrément cher. Un gladiateur représente des années d'investissement et d'entretien. Chaque combat est un pas de plus vers une réputation solide et des revenus conséquents. Pour faire une analogie douteuse, prenons un club de foot venant de recruter un jeune prodige à coût de millions d'euros pour un seul match. Ça n'a aucun sens. Imaginez la scène dans l'arène.
Et c'est le jeune Myrmillon gaulois qui entre dans l'arène. Un petit gladiateur prometteur dans lequel son propriétaire a tout investi. Il a eu droit au meilleur équipement, aux meilleurs entraîneurs, et ça se voit. Face à lui, un rétiaire familier du public qui n'en est pas à son premier coup de filet. Et c'est parti! Le Gaulois qui s'élance, qui commence à travailler, il est très mobile, il réduit la distance, premier coup dans le vent, attention, il se fait contre-attaquer, il s'est fait empaler par le trident, c'est terminé! Une performance décevante du joueur gaulois, qui est décédé sur le coup, on a connu meilleur investissement.
La mort existe dans l'arène, mais elle est rare, soit accidentelle, soit mise en scène. En cas de mort commandée ou fortuite, la même règle s'applique. En gros, tu casses, tu rembourses. Le responsable du décès d'un gladiateur doit verser une fortune en dédommagement à son propriétaire. Sylvanus le Sécutor était donc un gladiateur, un esclave adulé, une vedette asservie. Nous ignorons comment il est mort, mais devinons comme il a vécu. En athlète célébré des foules, mais enchaîné à son art. Il fut aimé sans doute. Aujourd'hui, sa stèle domine dans le musée celle des notables, et c'est toujours vers elle que les regards se tournent en premier. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.